ce don si précieux. Alors, on a reçu des cadeaux à Noël, mais voilà, de recevoir ce don si précieux. Et dans toute une année, c'est pas toujours facile de recevoir ce don. C'est une lutte de recevoir. On dit, oh, je reçois l'amour, mais quand je souffre, oh, est-ce que tu m'aimes vraiment, Seigneur? Et donc, je vais vous donner une prière pour la fin de l'année. D'accord? C'est juste une prière dans ce moment que nous pouvons garder à la fin de l'année. Et cette prière se trouve en Genèse. Et c'est Genèse 32. Et pour ceux qui suivent, c'est verset 27. Mais c'est la prière d'un homme qui luttait. Et vous savez, si vous connaissez Marx, on dit lutte ouvrière. Mais moi, je ne vous donne pas lutte ouvrière. Moi, j'ai dit la lutte chrétienne. Parce que la vie, pour recevoir ce don si précieux, c'est une lutte. Et peut-être vous avez lutté cette année. Peut-être cette année était une année de lutte. Mais écoute la prière de Jacob. Parce que lui, il était même brisé. Il était là et il luttait avec un homme. Et l'homme l'a touché à la hanche, paf, et il était tout cassé. Et quelquefois, ça, c'est la réalité d'une année. Est-ce que 2013 vous a cassé? Et 2014, mais il y a des choses très cassantes qui arrivent. Mais quand même, juste un mot, accroche-toi. Accroche-toi. Et Jacob, il s'est accroché à ce don si précieux. Et il a prié ceci. Il a dit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai dit, ça peut être une belle prière pour juste avant minuit. Je vais pas laisser partir cette année. Tout ce que Jésus, toute cette année de grâce, sans que tu me bénisses. Parce que Jésus, même dans les moments difficiles, il est là. Et on ne veut pas perdre sa présence. Et on peut dire, voilà, je ne vais pas te laisser partir sans que tu me bénisses. Seigneur, que je finisse cette année en bénédiction. Pas en désolation. Pas avec l'incrédulité, le déchiré, avec ce don qui a arraché de moi. Mais je m'accroche, même s'il y a la souffrance, même s'il y a la mort, même s'il y a toute chose qui m'a totalement cassé, je m'accroche. Et je te dis, voilà, même si je suis cassé, comme Jacob là, il n'avait plus de force, mais il s'est accroché. Et quand on ait cette foi, à la fin de l'année, de prier cette prière, qui dit, je te laisserai point partir, sans que tu me bénisses. Et là, c'est la lutte de la foi. C'est une lutte de grâce que Dieu nous donne. Et c'est comme Jésus-Christ sur la croix. Je vais pas partir sans que tu me bénisses. Et ça, c'est la bénédiction pour nous. Et je veux d'un côté laisser cette prière de bénédiction à la fin de l'année. Et peut-être on peut juste prier cette prière maintenant. Voilà, il y a l'offrande, Jésus qui est pour nous dans les beaux jours, dans les mauvais jours. Mais aussi, on doit s'accrocher à ce cadeau. Comme un gamin là, il faut, vous savez, les petits gamins qu'on leur donne un cadeau, tu essaies de retirer, ils s'accrochent. Et nous aussi, quelquefois, on doit vraiment s'accrocher à notre foi, parce qu'il y a toutes les circonstances qui vont arracher ça. Mais on peut dire, voilà, 2013, c'est vrai, peut-être il y avait les choses qui ont essayé de me casser, qui ont essayé de détruire ma foi, qui ont été difficiles à porter, et même je me sens cassé et brisé. Mais je te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Et après Jacob, même blessé, avec sa blessure, il a quand même béni ses fils, il a béni le pharaon, parce qu'il a été touché par Dieu. Et donc, Seigneur, nous voulons, dans ce petit moment, Seigneur, juste faire cette prière qui est dans notre cœur. Nous voulons nous accrocher à ce cadeau, à cette offrande, ce don de vie. Et nous voulons prier, Seigneur, je te laisserai point partir. Je te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Seigneur, bénis ton Église ce matin. Qu'elle s'accroche à ce cadeau de la grâce, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur, dans toute cette lutte de la vie quelquefois, mais bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Et même si, Seigneur, on doit boiter un peu, Seigneur, bénis notre état de boiteur, Seigneur, devant toi. Seigneur, même si tu casses notre force, même si tu casses beaucoup de choses autour de nous, nous voulons s'accrocher à toi. Et Seigneur, bénis, je te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Au nom de Jésus, amen.
Alors merci Seigneur, parce que c'est la joie l'emporte sur l'appréhension, hein, de me remettre à prêcher après un trimestre. Mais la joie est plus forte. Merci Seigneur. Et j'avais cette conviction avant de partager la parole, puisqu'on est le dernier dimanche de l'année, effectivement, 2013, de dire en quelques mots ma profonde gratitude envers Dieu pour sa fidélité. Et bien sûr, Annette se joint à moi, hein, elle n'a pas voulu venir devant, mais elle est de tout cœur avec moi dans ce que je vais exprimer maintenant, hein. S'il y a un mot qui résume, alors bien sûr, je le dis avec humilité, parce que voilà, comme Robert l'a dit, pour certains, l'année 2013, le mot majeur, c'est le mot épreuve. Et ça l'a été pour nous d'autres années. Pour nous, cette année 2013, le mot central, c'était le mot cadeau. Que de cadeaux nous avons reçus cette année. Alors je voudrais dire toute ma gratitude avec Annette, reconnaissance envers Dieu. Pour cette année 2013, il nous a fait plein de cadeaux. Bien sûr, Robert et Sylviane, en premier, avec ce plat nouveau, avec leur passion, avec cette nouvelle dynamique qui se voit concrètement dans différents domaines. Quel cadeau! Mais ça, c'est pas seulement nous, hein, Annette et moi, c'est vous, c'est nous tous, vous êtes d'accord? C'est un cadeau pour nous tous, mais aussi cette équipe des Coréens. Quel cadeau, tous ces sourires et cette merveilleuse célébration de Noël qu'ils nous ont offert avec les jeunes, hein. Quel cadeau. Ouais. Alors je dis ma gratitude aussi pour les nombreux témoignages d'amitié lors du passage du relais le 6 juillet. Ça, c'était des cadeaux extraordinaires. Gratitude pour les derniers mois vécus de mon côté, dans mon école, où vraiment la grâce de Dieu m'a porté comme jamais. Autre grand cadeau, la joie de voir deux de nos filles, Aurélie et Anne-Sophie, impactées spirituellement après un voyage en Israël au mois d'octobre avec Tony Sperandeo, et de les voir entrer dans un cheminement vraiment spirituel. Et la présence d'Aurélie ces derniers dimanches en est la démonstration, mais Anne-Sophie à Bruxelles chemine aussi, relit sa Bible avec Hubert. Ouais. Ça, c'est un grand cadeau. Autre grand cadeau, nous avions élevé une petite fille pendant 10 ans, Cindy, plusieurs l'ont connue, 10-12 ans à peu près, et on avait un petit contact avec elle, mais ces dernières années nous n'avions plus de contact, ouais. Et on a téléphoné à sa maman qui n'avait plus non plus de nouvelles et pas moyen d'avoir le portable. Alors vous voyez, Facebook, il a ses côtés, il a son beau côté aussi, parce que c'est par Facebook que nous avons repris contact avec Cindy. C'est cette année que le Seigneur nous offre ce cadeau de reprendre contact avec Cindy des années après, et juste avant qu'elle n'accouche d'une petite fille, une prématurée de 6 mois. Juste avant, ça c'est super. Donc on est en lien maintenant par téléphone et on peut la soutenir par téléphone. Cette petite fille s'appelle Thelma, elle ne savait pas, elle a choisi ce prénom Cindy sans savoir la signification. Et la signification, c'est protection divine. C'est pas beau, ça? Et on a pu lui dire, et ça l'a touché. Là, maintenant, elle a 2 mois, donc je crois que ça va, c'est passé. Le cap difficile est passé. Autre cadeau encore cette année, le Seigneur nous a fait reprendre contact avec Fabienne Clich, qui est quelqu'un qui a fondé l'église avec nous, avec Michel. C'est un couple qui a fondé l'église, qui nous étions sortis de l'eau vive, et elle était partie d'un seul coup il y a donc maintenant plus d'une dizaine d'années, sans donner de nouvelles, plus moyen de la contacter. J'ai écrit, j'ai pas de nouvelles, et aussi par Facebook, le contact a repris cette année. Quel cadeau. Contact a repris avec cette femme. Bon, et puis voilà, il y avait une joie des deux côtés de reprendre contact. Voilà. On l'a bénie, elle a dit qu'elle a passé un Noël comme elle n'a jamais passé cette année. Bon. Alors, autre cadeau, le Seigneur nous a mis plus à l'aise dans le domaine financier aussi, avec le passage à la retraite, plus une remise de dette aussi cette année. Et la liste est là, voilà, continue. Que de grâces reçues. Donc nous tenons avec Annette à rendre témoignage à la fidélité de Dieu. Nous qui avons traversé des moments de lutte, de découragement, de doute. Donc on veut rendre ce témoignage à la fidélité de Dieu, et pour ceux pour qui cette année était une année où c'est l'épreuve qui a dominé, gardez courage, prenez courage, ayez patience, ayez la persévérance. Comme je l'ai prié tout à l'heure, je suis convaincu, il y a toujours une limite à l'épreuve, une limite à la tempête. Le Seigneur est aussi celui qui mène vers les eaux paisibles. J'ai été touché par un article, un chroniqueur d'une revue très connue, La Vie, et qui terminait en parlant de je ne sais plus qui, Nelson Mandela, ou je ne sais plus qui, enfin bref, ou du pape François. Et il disait la définition du saint, d'un saint. Un saint, c'est un pécheur qui ne se décourage pas. Un saint, c'est un pécheur, ben oui, on reste des pécheurs, hein. Mais qui ne se décourage pas. Oh, qui traverse des moments de découragement, mais qui se relève, d'accord? Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager avec ce témoignage. Alors, voilà, la parole que le Seigneur m'a donnée de partager, je l'ai reçue en prenant un petit temps de désert dans un monastère à Bouvines, et le Seigneur m'a parlé à travers le premier chapitre du livre de Daniel. Alors on va le lire, on ne peut pas le découper, on est obligé de le lire en entier, mais il n'est pas très très long. Et je vais tirer de ce chapitre simplement, assez rapidement, 8 vérités, 5 et 3. 8 vérités de ce chapitre. Alors je vais demander la participation, un court moment de Claude et de Christophe, hein, d'accord, vous êtes prêts? Alors donc Daniel, premier chapitre. Daniel 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, et à Mishkaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel :
Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous êtes éloigné ma tête auprès du roi.
Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et de Azaria :
Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu.
Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà, c'est pas trop long. Alors, 8 vérités que je dégage, il y en a certainement plus. Bon, j'ai voulu en dégager 8 et je vais insister particulièrement sur la dernière. Passer plus rapidement sur les autres. Au verset 2, on lit: le roi Nebuchadnezzar emporte les ustensiles destinés à la maison de Dieu pour les mettre dans la maison de son Dieu. C'est la stratégie de l'ennemi de nos âmes, détourner ce qui est destiné à Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi peut détourner? Il peut détourner le temps. Il peut détourner notre temps qui est dû à Dieu. Hein, il cherche souvent à nous disperser quand on a décidé « je vais prendre du temps pour Dieu ». Vous pouvez remarquer que dans ces moments-là, il y a plein de choses qui cherchent à vous distraire. Il peut nous disperser, hein, par toutes sortes de passions. Mais il peut détourner aussi notre argent, bien sûr. Quand on oublie ou qu'on néglige, bien sûr, de s'investir, de semer pour Dieu, pour son royaume. Notre argent est comme détourné, hein. Et on se prive en plus d'expérimenter son secours, sa provision. Il peut détourner nos capacités, bien sûr, nos dons, quand ils sont négligés, simplement. Quand ils sont négligés, c'est une manière pour l'ennemi de détourner nos capacités, nos dons. Il peut détourner notre mémoire. Et j'ai remarqué qu'il a voulu le faire souvent avec moi, ouais. À effacer le souvenir des interventions de Dieu, voire des promesses. Parce qu'il sait que cela stimule notre foi. Oublier une parole à propos, quelquefois, qui est nécessaire dans un moment bien précis. Mais il y a d'autres trésors que le Seigneur a mis en nous et que l'ennemi peut voler. La paix, la joie, vous le savez. Les circonstances difficiles, les blessures peuvent nous endurcir et voler notre foi aussi. Et nous faire perdre notre cœur d'enfant. Dernièrement, j'entendais le Saint-Esprit qui me disait, Jean-Luc, protège ton cœur en gardant ce cœur d'enfant. Pour être capable de rester émerveillé devant ce que je veux faire. C'est à travers le psaume 139 qui m'en parlait. Vous connaissez ce psaume où David à un moment dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et parce que David garde ce cœur d'enfant, eh bien, il pouvait s'émerveiller. Prenons garde, chers amis, à ne pas laisser voler ce cœur d'enfant. En gardant ce cœur d'enfant, le Seigneur va nous conduire d'émerveillement en émerveillement. J'aurais presque envie qu'on ferme les yeux une minute et qu'on demande, Saint-Esprit, montre-moi ce qui est détourné en ce moment. Et vraiment qu'en cette fin d'année, qu'en ce début d'année 2014, je puisse reprendre ce que l'ennemi est en train de détourner. Voilà, il y a cette promesse magnifique dans Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Alléluia. On peut reprendre, saisir ce matin l'opportunité. Oui, je reprends ce que l'ennemi a essayé de détourner. Je ne veux pas que ces trésors qui sont en moi servent d'autres dieux. Amen. Deuxième vérité. Daniel et ses compagnons sont repérés comme des gens de race royale. Et tout de suite, il y a un verset qui nous vient à l'esprit. Vous voyez lequel ? Est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, de race royale ? Ouais. Un Pierre de neuf. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Deuxième vérité, nous avons à réaliser qui nous sommes. Notre origine, notre identité. Nous sommes de race royale. Sachez que l'ennemi, s'il ne peut pas nous avoir par l'orgueil, il essaiera de nous tirer vers le bas par la honte. Il essaye souvent avec moi là-dessus. Nous devons lui résister en proclamant qui nous sommes. Ces enfants de race royale. Et comme David, on peut dire, je te loue, de ce que je suis une créature si merveilleuse, que je suis accueilli comme ton enfant, sujet de ton royaume, avec un ministère pour le roi des rois. Amen. Troisième vérité, fortement liée à la deuxième, nous avons à apprendre à discerner l'intention de Dieu dans ce que nous vivons. Discerner l'intention de Dieu dans ce que nous vivons. C'est dit dans le verset 1 Pierre 2, 9, nous sommes de roi royal pour annoncer les vertus de Dieu. L'intention de Dieu pour Daniel, que les vertus de Dieu soient annoncées à la cour de Babylone. On est appelé à être saint, Robert l'a dit dans ses messages, à refléter la beauté du Christ. C'est une manière d'annoncer les vertus de Dieu, refléter la beauté du Christ. Daniel n'oublie pas que la déportation est le résultat des péchés de son peuple, et qu'elle fait partie des conséquences de la désobéissance. Donc il ne se révolte pas, Daniel. Il ne se révolte pas et comprend que dans cette situation, il a une mission encore. Annoncer les vertus de Dieu à la cour de Babylone. Dans une épreuve, est-ce que nous pouvons discerner l'intention de Dieu ? Si notre peuple en France pouvait discerner l'intention de Dieu dans ce qu'il traverse. Quatrième vérité, l'intention de Dieu peut nous amener, c'est le cas de Daniel, à être un temps sous un gouvernement injuste ou idolâtre. C'est le cas pour Daniel. Il se trouve au milieu d'un peuple idolâtre. Il est probable que, plus que probable, même si ce n'est pas dit directement dans le texte, que les viandes que Daniel devait manger étaient des viandes sacrifiées aux idoles. À tort, souvent, dans ce genre de situation, nous disons « c'est la fin du monde, il n'y a plus qu'à attendre le retour de Jésus, tout est pourri et je vais me replier ». L'exemple de Daniel n'est pas le seul dans la Bible. Joseph, à la cour de Pharaon, avec Potiphar. Ouais. Jonas à Ninive, Paul à Rome. Le cœur de Dieu bat toujours pour ceux qui sont dans l'ignorance. Éloignés de son amour. Bien des enfants de Dieu peuvent se trouver un temps sous un gouvernement injuste par la volonté de Dieu. Par exemple, un employeur difficile dans le lieu de travail. Ils ont pour mission, Dieu leur donne cette mission d'annoncer les vertus de Dieu. Nous devons demander le discernement. Ce n'est pas absolu. Dans certains cas, il faut partir. Dans certains cas, dans le cas de certains abus, par exemple, bon. Et tous au niveau de la nation, de notre nation de France, nous sommes sous un gouvernement qui peut nous paraître injuste, puisqu'il a promulgué une loi autorisant le mariage pour tous. Est-ce qu'on va pour autant baisser les bras et dire c'est fini ? Ouais. C'est la fin du monde, j'attends Jésus, j'attends son retour. Non. On a encore une mission. Parce qu'il y a tellement d'ignorance encore. Tellement d'ignorance. Et beaucoup ont agi par ignorance aussi. Prions pour nos autorités. Prions pour des rendez-vous divins, des rencontres divines pour eux, pour les ministres, pour le président, pour le premier ministre. Des gens qui fassent l'expérience de Georgina Dufoy, cette ancienne ministre qui a rencontré Jésus. Ouais. Que la compassion l'emporte sur le jugement et le légalisme. Ouais. Cinquième vérité, on avance. Comme Daniel et ses compagnons, nous avons à résister à cet ennemi dans son action de détournement. Nous avons à résister. Parfois, une résistance intelligente, comme ça est le cas ici, enfin intelligente, pas au front direct. Parfois une résistance très... Daniel, ici, il a trouvé une solution de remplacement. Dans d'autres moments, on va le voir, dans d'autres chapitres, c'est non, point. C'est non, je... non, point. Là, c'est, oui, d'accord, tu as un but, mais je te propose autre chose. Daniel résolut, hein, verset 8, de ne pas se souiller en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Et il intervient auprès du chef des eunuques. Est-ce que nous avons cette même résolution pour nous, hein, ne pas nous souiller ? On peut se souiller facilement, vous êtes d'accord ? Ou est-ce que vous croyez Superman ? On peut se souiller simplement par la télévision. Hein. Est-ce qu'on sait arrêter le bouton quand il faut ? Bah oui, de temps en temps... Ça nous arrive avec Annette, on arrête. Pff, c'est vraiment... Bon, voilà, on change de chaîne, on voit, on est éteint, tant pis. Hein. Bah, il m'est arrivé, je ne sais pas si vous arrivez, à la fin d'un programme, de se dire, ah, j'aurais pas dû regarder ça. Hein. Ouais. Mais on peut se souiller au travail en nous mêlant de conversations calomnies, médisances, impuretés aussi. Voilà. Daniel résolut de ne pas se souiller. Ouais. Ce n'est pas une coupure avec le monde, vous le comprenez. Hein. Bien au contraire, il nous faut être présent, Daniel, et présent à la cour de Babylone. Mais, voilà. Comme Daniel, il peut arriver qu'on nous adresse une tâche ou que l'on nous mette dans une situation compromettante. Par exemple, un endroit où vous êtes obligé de boire beaucoup d'alcool. Sinon, là, à un moment, quand même, il faut quand même résister. Sinon, c'est la cirrhose du foie rapidement. Hein. D'accord ? Ouais. Daniel avait foi que Dieu pouvait le délivrer. Ouais. Nous avons résisté à cet ennemi dans son action de détournement. Sixième vérité, résistance ne veut pas dire mépris de l'autorité. Ouais. Résistance ne veut pas dire mépris de l'autorité. C'est évident, ça sort là, le respect de Daniel pour l'autorité. Ça crève les yeux, hein, c'est un respect. Il résiste, mais dans le respect. Joseph a eu la même attitude. Je l'ai un peu dit déjà, septième vérité, septième déjà. Oh, avant-dernière, ça va vite. Hein. Dans notre résistance, Dieu veut nous apprendre à être créatifs et à trouver des solutions de rechange. Ouais. Daniel a su ici trouver une solution de rechange qui a convaincu le chef des eunuques, qui l'a rassuré, parce qu'il était inquiet. Oh là là, moi je vais perdre ma tête hein, si je désobéis au roi. Il a trouvé une solution. Allez, teste pendant 10 jours, teste-nous pendant 10 jours avec des légumes et de l'eau, et tu verras qui a meilleur visage. Voilà. La créativité, ah, ça c'est quelque chose qu'il faut demander à Dieu, à la fois pour communiquer l'évangile, la parole, mais aussi pour des solutions de rechange dans nos actions de résistance. Est-ce que vous croyez ce que nous croyons, que là où Dieu nous a placés, Dieu veut développer une créativité? Huitième et dernière vérité. Et c'est là le point central, à mon avis, c'est le point culminant. Le roi trouvait que Daniel était 10 fois supérieur en sagesse, en intelligence à tous les magiciens et les astrologues. 10 fois supérieur. Daniel n'était pas de race royale pour rien, et parce qu'il le savait, il n'avait pas peur de demander à Dieu cette sagesse. Au point de résoudre même par la suite des énigmes, d'interpréter des songes. On le voit dans les chapitres suivants, des rêves faits par le roi. Chers amis, parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, Dieu veut nous donner une sagesse supérieure. Jésus, il y a toute une belle étude biblique, hein, il n'y a pas longtemps, sur Jésus, la sagesse. Jésus, celui qui vit en nous, n'est-il pas la sagesse? Ouais. N'avons-nous pas revêtu Jésus, la sagesse? Il est dit dans la Bible que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et que le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus à Jésus ensuite, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc par déduction, nous sommes plus grands que Daniel. Nous sommes plus grands que Daniel. Est-ce qu'on est prêt à croire que Dieu veut nous revêtir de cette sagesse ? Pour annoncer les vertus de Dieu. Je lis là les paroles d'un écrivain que j'aime beaucoup, John Bevere. Je m'en suis inspiré lors d'un dernier message à la fin de l'été. Il a dit ceci: partout où les croyants sont impliqués, devrait régner une abondance de créativité, de productivité, de tranquillité, de sensibilité, d'ingéniosité. Nous sommes appelés à être lumière dans ce monde de ténèbres. À cause de l'incroyable grâce de Dieu dans nos vies, nous devrions nous démarquer dans la société obscure où nous vivons. Appelés à nous démarquer en manifestant cette sagesse supérieure. Est-ce que nous le croyons ? Matthieu 5,16, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, pour que nous nous démarquions, croyons-nous que Dieu nous a appelés à manifester cette sagesse. Comment on réagit devant les défis qui nous sont proposés, devant les difficultés, devant des problèmes qui semblent insolubles dans notre marche, dans notre route? On peut dire: Seigneur, écarte-moi de tous ces problèmes, ou on peut au contraire dire: Seigneur, je saisis ce problème comme une opportunité pour expérimenter ta sagesse. Est-ce que nous suivons le conseil de Jacques, non pas Perrin, mais l'apôtre? Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Hein, combien on peut se tenir éloigné quelquefois de cette simple vérité. Hein. Demandez. Souvenez-vous de la mention d'une enquête dont je vous ai parlé il y a un trimestre, faite aux États-Unis. Une enquête à des chrétiens nés de nouveau. On leur demandait: qu'évoque pour vous le mot grâce? Grâce. On a beaucoup chanté la grâce. C'était super comment c'était conduit ce matin. Hein. Voilà. Et 2% seulement de chrétiens aux États-Unis associent ce mot grâce à la puissance pour notre vie de tous les jours. Mais ils l'associent seulement à la notion qui est juste de pardon, de salut, de rédemption. Mais pas à la notion de cette puissance qui nous est donnée pour notre vie de tous les jours. Et certainement, je suis dans ces 2% souvent. C'est à moi que je jette la première pierre. Hein. Je m'aperçois que le voleur de mémoire, là, que l'ennemi m'a fait souvent oublier des circonstances très particulières il y a des années, au moment du décès de mes parents, où je me suis trouvé comme ça obligé d'être celui qui coordonne toutes les affaires du notaire pendant... C'est des choses auxquelles je suis pas à l'aise naturellement, mais Dieu m'a donné pour ce moment-là de la sagesse. Et c'était apprécié par mes frères, c'était apprécié par ma famille. Bon, mais dans d'autres occasions, au travail, même dans l'église, dans une situation très délicate, même si c'est pas toujours le cas, hein, ça n'a pas été toujours le cas, mais quelquefois cette sagesse était là. Et j'étais étonné. Alors Dieu peut nous donner cette sagesse, même dans des domaines où nous ne sommes pas à l'aise, mais où nous y sommes parce que nous sommes en train de suivre le chemin de Dieu. D'accord ? Bien sûr, ne jamais nous enorgueillir de cette sagesse. Et Daniel, c'est formidable parce qu'à un moment, c'est dans un chapitre suivant, donc c'est pas la peine de le prendre, dans le chapitre 2, le roi lui dit: garde en toi une sagesse supérieure. Et Daniel le reprend, il s'attribue pas cette sagesse. Mais il dit: non, c'est pas pour que tu vois que j'ai une sagesse supérieure, c'est pour que tu connaisses qui est Dieu. Quelles sont les vertus? Voilà. Donc, bien sûr, hein, attention à pas nous enorgueillir de cela. Mais, Jacques, non pas Perrin, mais l'apôtre toujours, continue quand il dit qu'il faut demander la sagesse, il dit: attention, il faut la demander avec foi. Jacques insiste qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et pousser de côté d'autres. Et à ce texte, j'associe un autre texte. Je vais terminer avec une illustration de John Bever, que j'ai trouvée excellente. Et ça va nous préparer à terminer dans la prière. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen. Et John Bever commente ce passage en disant ceci. Je termine avec ça. Faites attention à cette section du verset « Dieu peut faire ». Imaginez un instant qu'une partie du monde soit frappée par une implacable famine. Une nation généreuse et charitable, située dans une autre partie du globe, envoie son armée dans la zone touchée avec des cargos remplis de fruits, de légumes, de graines, de viande et d'eau potable. Le général fait passer l'information suivante aux habitants. Nous pouvons vous donner autant de nourriture que vous pourrez en emporter. Le premier client arrive avec un panier pique-nique et emporte de quoi nourrir 2 personnes pendant quelques jours. Un deuxième s'approche avec un énorme sac et emporte de quoi manger pour tous les siens pendant 5 jours. En revanche, celui d'après arrive avec une énorme camionnette, fait marche arrière dans la cour, puis charge et emporte de quoi nourrir sa famille et des voisins affamés pendant 1 mois. L'homme au panier voit la camionnette passer devant chez lui avec une tonne de nourriture à bord. Perturbé, furieux, il se plaint auprès de ses voisins et de tous ceux qui voudront bien l'écouter. Finalement, sa plainte arrive aux oreilles du général qui le convoque et lui dit « Nous avons dit que nous vous donnerions autant de nourriture que vous pourriez en emporter. Pourquoi êtes-vous venu avec un récipient aussi petit ? Il fallait prendre quelque chose de plus gros. Vous auriez dû venir avec votre camionnette. » Quand on parle de la grâce de Dieu, à quoi correspond le récipient pour le chrétien? Selon Éphésiens 3:20, il s'agit de ce que nous demandons ou pensons. Dieu nous dit, ma grâce en vous peut aller bien au-delà du récipient que vous m'apportez. Autrement dit, c'est la taille de notre récipient qui détermine la quantité disponible des ressources inépuisables que nous puiserons. En fait, ce n'est que la taille de notre récipient qui limite Dieu. Voilà, alors, on va terminer dans la prière. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien. Ouais. Il y a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Approchons-nous avec assurance, avec un gros récipient. Dieu m'a accordé beaucoup plus que je ne le pensais cette année. Alors pour 2014, il peut nous accorder beaucoup plus que ce que nous demandons. Dont cette sagesse. C'est tellement important. On a tellement besoin de la sagesse. Dont cette sagesse. Jésus est la sagesse. Alléluia. Seigneur, par ce récit, tu nous parles, tu nous interpelles. Et nous prenons conscience que nous avons résisté à l'action de l'ennemi pour ne pas lui permettre plus longtemps de détourner en nous ce qui t'est destiné. Nous prenons conscience de notre identité. Un peuple acquis, une nation sainte, race royale, comme Daniel. Et on prend conscience aussi de la mesure de la grâce et de sagesse que tu es prêt à nous donner. Pardon pour toute négligence et notre manque de foi qui fait que nous ne te demandons pas ou pas assez, hein, de ce que tu as prévu de nous donner, notamment cette sagesse pour manifester les vertus, ta grandeur, ta beauté. Alors Seigneur, nous venons au trône de ta grâce, devant toi. Non pas avec un petit récipient, mais avec un gros récipient. Nous appropriant toute ta provision, de grâce, de sagesse, nous permettant d'être pleinement dans notre vocation de montrer au monde qui tu es. Et uniquement dans ce but, pas pour notre gloire. Dans ce monde obscur, Seigneur, nous refusons toute fatalité. Parce que nous sommes lumière. Nous refusons tout propos, discours de fatalité. Ouais. Parce que tu vis en nous. Et toute situation problématique, nous voulons la voir comme une opportunité de manifester ta sagesse. Et comme Daniel, qui a pu obtenir que des décrets par tout le royaume soient promulgués pour honorer le roi des rois, comme Daniel a fait la percée, Seigneur, nous croyons que tu peux faire encore une percée avec nous. Ouais. Tu veux et tu peux faire une percée dans nos vies. Tu veux et tu peux faire une percée dans cette région, au point de toucher même les autorités de cette région. Merci Seigneur. Louange à toi. Louange à toi. Amen. Je vous laisse cette référence aussi de Proverbe. Vous pouvez le lire, qui parle d'acquérir la sagesse. Hein, voilà, comme le plus précieux des trésors. Proverbe 4, 5 à 9. Lisez-le chez vous. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Marie.
Voilà.